Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le livre des Actes. Deux fois par mois environ, même trois, hein, je ne sais plus, deux fois, trois fois. Et aujourd'hui, on fait suite à la semaine dernière, on est dans Actes 21. C'est un peu spécial ce que je vais vous partager ce matin, mais on va déjà lire le texte, si vous voulez bien. Livre des Actes des Apôtres, écrit par Luc, comme l'évangile qui porte son nom. Acte 21, donc chapitre 21, des versets 1 à 16. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Or, les restâmes, trouvâmes, sésames, on va essayer de changer de traduction. Parce que là, ça me fait mal, quoi. Parce que je l'ai copié sur le logiciel, mais en fait, j'ai ma Bible et finalement, rien ne vaut. Alors, 21, on est au verset 5. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et accompagnés de tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint vers nous. Il prit la ceinture de Paul, la lia aux pieds, les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit « Qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Un texte qui est quand même pas simple, hein, mine de rien. Après nous être séparés d'eux, ça c'est le premier verset, dans le texte original, en fait, le terme séparé, en fait, le terme est beaucoup plus fort. On pourrait dire après nous être arrachés à eux. Pour la seconde fois, Paul se séparait des frères et sœurs d'Éphèse, dont les plus anciens étaient Priscille et Aquila. Une séparation qui allait être vraiment une épreuve pour lui. Et dans ce premier verset, j'ai été personnellement interpellé. Vous n'êtes pas sans savoir que, Dieu voulant, la famille Coronaise va quitter Grasse. Quitter la France entre juin et juillet 2017. Nous partons nous investir auprès du peuple Atikamek. On va mettre de côté nos chemises légères et nos casquettes pour le bonnet. Le bonnet, c'est une tuque. On va à la tuque, donc on sait déjà où on va, rien qu'avec le nom. Et c'est vrai que cette semaine, un soir, très tard, lorsque je sortais à Iron, avant d'aller me coucher, j'ai été vraiment saisi d'une énorme... J'avais les larmes aux yeux, quoi. J'ai eu une angoisse. Tout à coup, j'ai pensé aux personnes que j'aime. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mon frère, j'ai pensé à ma fille, Manon, j'ai pensé à mes petites filles, j'ai pensé à mon église locale, j'ai pensé à vous. Et c'est vrai que, voilà, parce que vous êtes certainement les personnes avec lesquelles je suis le plus en relation, peut-être même plus qu'avec ma famille biologique, à part ma famille proche. Mais des sentiments puissants sont présents. Et c'est vrai que l'église locale est une famille. C'est une famille. On se voit souvent, régulièrement, pour certains maintenant depuis des années. C'est pas anodin. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, dans cette société occidentalisée très égocentrique, il y a des clubs. Il y a des clubs de dressage pour les chiens, il y a des clubs d'éducation canine, il y a des clubs de pétanque, il y a des clubs de ce que vous voulez, de sport, etc. Et les gens, là aussi, recherchent aussi un attachement au travers des relations, etc. Et l'Église en fait partie. Hein. Et moi, en tout cas, je considère mon Église locale comme ma famille. Ce n'est pas une option dans ma vie, c'est essentiel. Raison pour laquelle aussi j'ai du mal à comprendre le départ des frères et sœurs tout à coup. Tout à coup, on les voit. Des personnes qui ont été là, au milieu de nous, pendant des années. Des personnes avec qui on a passé du temps. On a mangé ensemble, on a ri ensemble, on a discuté ensemble, on a prié ensemble. Et du jour au lendemain, plus personne. C'est terrible. Et pour l'apôtre Paul, se séparer des frères et sœurs d'Éphèse, dont Priscille et Aquila, était une épreuve. C'était une épreuve. Si j'avais, peut-être, je ne sais pas si je suis bien placé pour dire ça, mais si j'avais un seul conseil à donner à une église locale, pas nécessairement la nôtre, hein, serait celui de préserver l'amour, de rejeter les attitudes présomptueuses, l'orgueil, encore moins celui qui est spirituel et qui est lié à un statut quelconque, hein, aimer, supporter, avoir de la compassion, s'attacher aux gens, s'encourager toujours et encore, ne pas être avare de compliments et de positifs. Et derrière l'expression « le lendemain à Rhodes », dans la Vulgate, il est dit « le jour suivant en sortant », qui correspond au huitième jour, clôturant les sept jours passés chez les frères de Tyr. Sept jours évoquent la semaine s'achevant sur le sabbat, un jour où on s'abstient de voyager, et donc le départ pour Tyr était repoussé au dimanche. Dans le texte, dans un des textes, des vieux textes originaux, il y en a un, on appelle l'Alexandrin, on lui a préféré « lorsqu'advint pour nous d'achever les jours ». Il faut faire un tour presque dans l'original pour se rendre compte de cette précision. Chapitre 21, verset 4, il est dit « Ceux-ci, par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas entrer dans Jérusalem. » Par l'Esprit. C'est intéressant. Dans Actes, au chapitre 20, verset 22, Paul dit « Allez à Jérusalem, liés par l'Esprit. » Dans Actes 21, verset 4, les disciples se disent « Poussés par l'Esprit pour l'en empêcher. » Vous avez remarqué cette contradiction apparente? C'est bizarre, hein? Des contradictions dans la Bible. Lisons, Actes chapitre 20, verset 22. « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Actes chapitre 20, verset 23. « Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Actes chapitre 21, verset 4. « Les disciples... » poussé par l'Esprit, disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous avez noté? Acte 20, 22, acte 20, 23, acte 21, 4. Peut-on concilier ces versets sans dénigrer la spiritualité et le discernement des uns ou des autres? L'Esprit dirait-il une chose aux uns, puis autre chose à d'autres? C'est des vraies questions, ça, hein, que nous pose le texte. Hein. Les interprètes se divisent sur cette question, hein. Raison pour laquelle nous devons revoir notre façon parfois magique de lire la Bible, de ne pas sortir les versets hors de leur contexte, de les regrouper pour les analyser, en faire ressortir l'idée centrale, de comprendre la pensée de l'auteur à un moment donné de l'histoire qui est racontée. Moi, je crois que l'Esprit parle, mais encore faut-il interpréter correctement ce qu'il dit. Et parfois, on n'est pas en mesure de l'interpréter. On sait qu'il nous parle, on sait qu'il y a quelque chose, on est inspiré à un moment donné de notre vie, il y a une inspiration qui est là, on ne sait pas comment l'interpréter? On se fait des idées, on essaye de comprendre, mais c'est flou. On voit comme au travers d'un prisme opaque. Dans ce cas-là, l'Esprit a certainement révélé aux disciples le danger de se rendre à Jérusalem. Certainement. Il y a quelque chose qui les a saisis au fond d'eux. Ils ont senti qu'il y allait avoir des soucis à Jérusalem. Mais, comme nous, les disciples ont eu tendance à aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, non. N'y va pas, c'est trop dangereux. Entre c'est dangereux et non, n'y va pas, c'est trop dangereux, il y a un monde. Hein. Parfois, on fait un peu comme ça, nous, non? Dans notre façon d'interpréter les événements, parfois, et les conseils que nous pouvons donner aux uns et aux autres. C'est pas évident. Et c'est à ce moment-là que, pour interpréter correctement ce discernement spirituel, Dieu envoie Agabus. L'Esprit dévoilé aux disciples que Paul allait beaucoup souffrir à Jérusalem, et eux, dans leur tendre sollicitude pour lui, l'exhortaient à ne pas y aller. Tout simplement, ils étaient inquiets pour lui. C'est de l'inquiétude, ça part d'un bon sentiment. Mais Paul avait prévu ses souffrances. Il allait se rendre au devant d'elles, lié par l'Esprit. Versets 13 et 14, alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. comme ils ne se laissaient pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Nous n'insistâmes pas. Entre parenthèses, Luc fait partie du coup. Hein. Luc est bien inclus dans ce « nous », celui qui écrit. Hein. Alors finalement, on se rend compte que c'est un appel au combat spirituel que les frères devaient livrer. Et ça a commencé en mettant presque en doute la détermination de Paul. Il fallait que cette détermination soit ancrée, elle soit profonde, déterminée face à n'importe quelle épreuve, au point d'accepter d'être lié, voire même d'aller jusqu'à mourir pour le nom de son maître. On peut être troublé par une apparente contradiction, hein. On peut avoir une vision peut-être parfois étriquée, on a du mal à comprendre que l'Esprit Saint conduise les hommes dans leur faillibilité, parce que c'est bien ce qui se passe. Nous sommes faillibles et Dieu nous conduit dans notre faillibilité. Quand bien même nous serions remplis de l'Esprit de Dieu, du moment où nous sommes sur terre, en train de vieillir, nous sommes enclins à être faillibles. Et finalement, ils ont une minuscule compréhension des grandeurs de Dieu. Dieu révèle sa volonté à plusieurs niveaux et notre compréhension de ce qu'il fait dépend souvent de plusieurs révélations simultanées, accordées à des personnes différentes. Il faut savoir écouter. Le proverbe 15, verset 22, dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » C'est important de délibérer, c'est important de poser la question « Mais qu'est-ce que tu en penses ?» Mais dans notre réponse, il faut être prudent, très prudent. Parce qu'il y a des réponses qui peuvent décourager, il y a des réponses qui peuvent freiner, bloquer. J'ai eu... Ces dernières semaines, j'ai eu deux personnes au téléphone. 92 ans, Jean Chex, fondateur de France Évangélisation, qui est un ami. On s'appelle assez régulièrement, on passe un petit moment au téléphone ensemble à chaque fois. Et Yves Perrier, évangéliste itinérant pendant plus de 45 ans, je dirais comme on dit aujourd'hui, mon mentor. Et je parlais à Yves des soucis de santé qui ont tendance à m'accabler un petit peu. J'ai vu mon rhumatologue, je ne vais pas faire l'inventaire, chacun a le sien. Hein. Et puis je disais, tu sais Yves, je suis quand même inquiet, parce qu'on doit partir, et ma santé elle n'est pas top. Et il me dit, tu sais Daniel, c'est pas un souci ça. Je lui fais, c'est pas un souci pour toi, mais pour moi, partir là où il fait moins 45, avec du rhumatisme partout, ça me fait un peu de soucis quand même. Hein. Et il me dit, tu sais Daniel, il me dit, quand je suis sorti de l'Institut biblique à La Morlaix, j'ai fait plus de 9 mois de sanatorium. J'avais des problèmes pulmonaires. J'avalais 38 cachets par jour. 38 cachets par jour. Et j'ai reçu un appel pour aller travailler en Afrique. Je me suis adressé à la CIM, qui ne m'ont pas voulu. Parce qu'ils m'ont dit, mais votre santé, on ne peut pas vous envoyer en Afrique. On ne peut pas vous suivre là. Ça ne va pas, vous êtes malade. Vous prenez des cachets, vous avez un foie qui est abîmé, etc. Vous envoyez là-bas avec... Ben écoutez, il était convaincu, il est quand même parti, il a travaillé pendant 5 ans, 7 ans je crois, une radio. Il travaillait dans une radio en Afrique, il prenait des cachets pour le paludisme, il est revenu 5 ans après, plus en forme que quand il est parti. Je dis waouh. Du coup ça m'a redonné un peu du courage. Il me dit écoute, si Dieu te veut quelque part, t'as pas de soucis à te faire pour ta santé. Jean Chex, 92 ans. Là, c'est juste l'anecdote. Hein. Quand je parle à Jean, j'ai l'impression de parler à mon grand-père, paternel. La même voix, il a la même attitude, il a la même... Oh, c'est sûr que quand je l'ai au téléphone, ben, j'aime bien être avec lui au téléphone. Il me dit, oh, si tu savais ce qui m'est arrivé, je fais, ben, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, ben, j'ai voulu descendre au ruisseau, parce que ça fait des années que je ne descends plus au ruisseau, ça doit faire 15 ans. Ouais. Et il me dit, écoute, je suis descendu, puis je suis tombé en arrière, je me suis arraché la moitié du coude, derrière la tête, je saignais. Je lui ai dit, mais comment tu as fait? Il me dit, ben écoute, je me suis nettoyé dans le ruisseau, et puis j'ai marché le long du ruisseau, et puis après je suis arrivé où je devais remonter. Alors il y a un dénivelé de je ne sais plus combien de mètres. Il me dit, bon, je n'ai pas pu prendre l'endroit où je prenais d'habitude, mais ça m'a pris 2 heures à monter. Et je suis monté jusqu'à là où je dis, tu as vu un docteur? Il me dit, non. Il me dit, non. Je dis, mais. Il me dit, des fois la nuit, j'ai un petit truc là dans la tête. Il me dit, mais ça va. Je dis, mais tu devrais aller voir un docteur. Il me dit, non, mais ça va. Maintenant, c'est passé, ça fait 15 jours. Si je devais être mort, ça serait déjà arrivé. Il fête ses 93 ans, là, dans une semaine. Le gars, waouh, un battant. Moi, j'ai du mal. Je vais promener le chien à Cabri, là. Je vois la pente, là. J'ai dit, ben bon, je vais faire le tour du truc, là. Et puis, ça suffit, quoi. Je vais pas monter là-haut. Mais lui, il y va. Un battant. Ça m'étonne pas qu'il arrive à cet âge-là. Ça m'étonne pas aussi qu'il a été le fondateur de France Évangélisation. Je suis pas étonné. Le mec, il y va, quoi. Il cherche pas à comprendre. Tout simplement pour vous dire que l'apôtre Paul quitte à être lié, quitte à mourir, il y va. Il y va. Mais on est obligé d'écouter les conseils. C'est vrai que si Jean m'aurait dit je vais descendre au ruisseau, que j'aurais vu, je connaissais le ruisseau, j'aurais dit Jean, ou alors je t'accompagne, ou alors si j'arrive à le suivre. Parce que c'est pas sûr encore. Hein. Pourtant, il a 93 ans. Mais en tout cas, on doit, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Hein. Il faut faire attention. Verset 11, un prophète nommé Agabus revint alors vers nous. Agabus n'était pas un inconnu, ni pour Luc, ni pour Paul, bien sûr. Hein. Devant l'assemblée d'Antioche, il avait prophétisé une famine. Luc, qui avait vu s'étendre une famille sous Claude, celle de 48, en rajouta la mention à son texte, bien qu'entre la prophétie et la famine, il y a eu 6 ans à peu près d'intervalle. Agabus était un prophète à considérer, mais sérieusement. C'était quelqu'un qui avait fait ses preuves. Et Luc crédite en quelque sorte les paroles même d'Agabus, qui lui-même prête à ses paroles une action de l'Esprit de Dieu. De même que Jésus avait prophétisé sa passion, celle de Paul était annoncée également prophétiquement. Et il y a un parallèle, quelque part, entre la montée de Jésus à Jérusalem, annoncée dès le chapitre 9 de l'évangile de Jean, de Luc, et celle de Paul, annoncée au précédent chapitre, qui est soulignée de manière claire et nette. Au verset 12, « Nous suppliâmes nous-mêmes et ceux de l'endroit, Paul, de ne pas marcher, j'aime bien ce texte-là, sur Jérusalem. » Ne pas, vous voyez, le texte, ce vieux texte, dit « marcher sur » au lieu d'aller vers. C'est un fort, hein. C'est un terme qui s'accorde avec la détermination de Paul. Paul est déterminé. Paul se trouvait à Césarée, là où Pierre était entré pour la première fois sous le toit d'un incirconcis. Bien que Luc ne le dise pas, il semble qu'une des raisons pour lesquelles ce voyage à Jérusalem était important pour Paul, c'est qu'il apportait une offrande pour les croyants de Jérusalem. Verset 13, « Que faites-vous en pleurant et en troublant mon cœur ? Car non seulement je veux être lié. » Le cœur de Paul est troublé. Il se passe quelque chose. Il reproche quelque part à ses amis d'insister pour lui faire changer d'avis. D'insister un peu trop. C'est vrai, je suis reconnaissant parce que dans ma vie, en tout cas dans mon ministère et dans mes choix, j'ai eu très peu de gens qui ont insisté. Très peu de gens. Des gens qui m'ont encouragé, j'en ai eu beaucoup plus. Mais très peu qui ont insisté pour m'arrêter. Mais c'est vrai que quand tu quittes ton travail, que tu quittes... le lieu où tu vis, que tu quittes, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, que tu quittes ton assurance, ta sécurité au niveau de l'emploi, que tu quittes, je ne sais pas, des racines, des choses que tu as construites depuis des années, que tu as mis du temps, ben, c'est pas évident. Et puis il y a des gens autour de toi qui s'inquiètent et qui te disent, mais est-ce que tu crois que tu fais bien de te lâcher, de lâcher la branche ou de lâcher la branche à laquelle tu te tiens pour te rattraper à une que tu vois à peine que tu tiens pas encore. Et c'est un peu toujours le problème que nous avons. Hein. Nous aimons bien lâcher d'un côté quand nous avons quelque chose de l'autre côté. Ça s'appelle être en sécurité. Ça s'appelle des décisions raisonnables et raisonnées. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de décisions que nous prenons dans notre vie qui ne sont pas parfaitement raisonnables. Oui, il y a des éléments qui vont dans notre sens, mais c'est pas toujours parfaitement raisonné. Un mariage, par exemple, on est amoureux, oui. On a envie de faire sa vie, oui, avec quelqu'un. Mais les années te montrent que ce que tu avais prévu au début, c'est pas la même chose. Hein. Que les choses ont changé. Tu as découvert la personne avec qui tu es, et la personne avec qui tu as découvert aussi. Et du coup, parfois, ça correspond pas vraiment à ce que tu pensais au départ. Alors maintenant, c'est bien parce que par Internet, tu peux avoir des avis. Mais pas pour te marier. Hein. Pour acheter quelque chose, tu as des avis. Tu veux acheter un truc, une voiture ou un appareil ménager, ou tu as des avis. Tu vas avoir les avis. Alors, tu as 4, 5 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, et avec les étoiles, tu peux choisir. Mais dans la vie, avec Dieu, c'est pas ça. Tu n'as pas d'étoiles. Tant que tu n'as pas dit oui, ben, tu sais pas. Tu sais pas. Si on commence à réfléchir à toutes les bonnes choses, surtout les bonnes personnes qui nous entourent, ben, c'est sûr qu'on va, on va être un peu hésitant. Pour Paul, c'est tellement fort, car non seulement le fait d'être remis en cause dans sa détermination le faisait souffrir, mais il envisageait même encore plus de souffrance en partant. Il avait quand même mesuré que le fait de partir, ça n'allait pas être, entre guillemets, une partie de plaisir. Il allait souffrir. C'est une détermination qui est atténuée dans le texte que nous avons, parce que finalement, dis pas « je suis prêt », dans le texte original, en tout cas dans un texte qui s'appelle « Alexandrin », il est dit « je veux ». Et non, je suis prêt. C'est pas pareil. je veux et je suis prêt. Verset 14, comme ils ne se laissaient pas persuader, nous c'est Sam, eux se disant entre eux que la volonté de Dieu se fasse. On arrête d'essayer de le convaincre, c'est intéressant. Il reste en quelque sorte en dehors du groupe qui conclut que la volonté de Dieu se fasse. Car finalement, c'est bien ça l'essentiel, non ? Que la volonté de Dieu se fasse. Ça me fait penser un peu au jardin de Gethsémané, quand Jésus, il est devant l'épreuve et que finalement, il aimerait bien que cette épreuve-là, sachant où il va, qu'il va être arrêté quelques heures après, au point de suer des grumeaux de sang, tellement qu'il est angoissé, et au bout du compte, qu'il dit, mais écoute, si c'est ta volonté, alors ok, je donne ma vie. Personne ne me la prend, mais je la donne de moi-même. Personne ne me l'a pris. Jésus, c'est pas un défaut de l'histoire. C'est pas un pas de bol. Oh mince alors, il était au mauvais endroit au mauvais moment, dis donc. On l'a arrêté, on l'a condamné et on l'a mis sur la croix. Ça s'est pas passé comme ça. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il était tout à fait capable de pouvoir s'extirper de cette situation-là. D'ailleurs, quand on est venu l'arrêter, et quand les gardes et la cohorte, c'est-à-dire plus de 500 personnes, ont dit « Nous cherchons Jésus de Nazareth », il a répondu « C'est moi ». Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont tous tombés à la renverse. « C'est moi ». Rien que par cette phrase, ces deux mots, « C'est moi », »,« Ego emi », »,« Je suis », »,« Je suis ». Tout le monde est tombé à la renverse. Il aurait très bien pu s'échapper de cette situation-là. Mais non, il a voulu aller jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer Paul à Jésus. Hein ? Mais il veut. Il veut. Et finalement, les chrétiens, que la volonté de Dieu se fasse. C'est l'essentiel. Et Luc était en désaccord certainement avec Paul. Il n'approuvait pas vraiment son projet. Ça l'embêtait qu'il aille se faire arrêter à Jérusalem. C'est embêtant. Moi souvent, enfin pas souvent, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Mais dis donc, il y a du travail en France. Qu'est-ce que tu vas aller faire au Québec ? Avec tous les gens qu'il y a ici à s'occuper, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Pourquoi tu vas là-bas ? Il y a assez de personnes ici. » On aurait très bien pu dire la même chose à Philippe, l'évangéliste, quand il prêchait aux foules et que Dieu l'appelle pour aller prêcher à un eunuque, tout seul, sur un chemin désert. On va dire « Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je suis en train de fonder des églises, là, il y a plein d'églises qui sont en train de démarrer grâce à moi. Qu'est-ce que je vais aller faire sur un chemin désert, prêcher à un gars, sur un chariot ?» Mais Dieu avait une autre idée. Et ça part de la Samarie, ça passe par Jérusalem et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent je réponds, mais on a eu beaucoup de missionnaires britanniques, anglais, irlandais. D'ailleurs, je me suis converti grâce à eux, à des Irlandais, avec tout le travail qu'il y a chez eux, qui sont venus faire ici, quoi. Parce qu'il y en a du boulot. En tout cas, Luc était-il en désaccord ? Verset 15, quelques jours après, ayant pris congé, nous montâmes à Jérusalem, à Jérusalem. Prendre congé, ça me fait penser à « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume, n'est pas digne. » Verset 16, ils nous accompagnèrent dans une certaine ville et on allait chez Mnason, un certain chypriote. Mnason, M-N-A-S-O-N. On dirait qu'il manque une voyelle. Mnason, c'est bizarre, hein ? Alors, de Césarée, ils ne firent pas d'une seule traite le chemin jusqu'à Jérusalem, mais accompagnés de quelques frères de Césarée, ils s'arrêtent dans une ville que Luc ne nomme pas, et là demeurait Mnason. Chypriote, comme Barnabé, il avait dû faire partie, comme Luc, du groupe nommé dans Actes 8, 11, 9, 19 et 13, 1. Luc aurait pu désirer voir Mnason et inciter Paul à se rendre chez lui, raison pour laquelle le disciple est nommé plutôt que la ville. Parce qu'on nomme le disciple, mais pas la ville où il habite. Donc, ce disciple est certainement plus important à citer que la ville. Curieusement, Paul et Luc se sont rendus directement chez cet homme-là, au lieu d'aller rencontrer les chrétiens, la communauté. J'ai juste quelques mots pour terminer par rapport à la mission. Georges Verwer, fondateur d'Opération Mobilisation, dans son livre « Naviguer par la grâce », nous dit « Je veux déclarer en toute honnêteté que mon premier fardeau n'est pas l'évangélisation du monde, mais la gloire de Dieu. » C'est intéressant. Le premier fardeau qui devrait être celui des chrétiens, c'est pas d'aller dire aux gens « convertissez-vous », c'est la gloire de Dieu. Parce que c'est que dans cette dimension-là que nous sommes amenés à changer. Parce qu'en désirant la gloire de Dieu, on a envie de faire plaisir à Dieu. Et on a envie d'obéir à Dieu. Pas par crainte, pas par peur, mais par amour. On a envie qu'il nous change. On a envie qu'il nous transforme. On a envie de lui ressembler, de ressembler à Jésus. Et pas, c'est pas simplement une activité ou quelque chose qu'on veut faire. C'est vouloir être. J'entendais un discours, je me souviens plus c'est qui, à la radio, qui disait le mal de notre société aujourd'hui, c'est qu'on a on n'a pas d'équilibre entre être et avoir. Il y a un manque d'équilibre. Posséder et être. Il y a un manque d'équilibre. C'est pareil un peu pour la mission. Parfois, on a un manque d'équilibre. On voudrait faire les choses pour Dieu, mais on oublie que d'abord, c'est la gloire de Dieu qui nous pousse à les faire, à nous y engager. C'est pour sa gloire. C'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'il y a du boulot, c'est pas parce qu'il y a des besoins. C'est pas parce qu'on est notre corde sensible est atteinte. Moi, c'est une vraie question que je me pose. Comment parler de la mission en expliquant aux gens que c'est pour la gloire de Dieu qu'on veut faire des choses et pas simplement pour les faire pleurer devant un film d'un petit enfant qui n'a pas de quoi se nourrir ou qui manque de ceci ou de cela. C'est fou quand même. Hein, c'est fou. Le problème, c'est que les cordes sensibles, on les touche avec des choses qui sont totalement humaines, alors que la gloire de Dieu, et vouloir la gloire de Dieu, ça atteint des niveaux dans nos cœurs qui sont presque inatteignables. L'amour du prochain, l'amour de son ennemi, la paix, ça c'est inatteignable, c'est difficile à atteindre. C'est facile à dire, il faut aimer les gens qui nous aiment, tout le monde les aime, moi ceux qui m'aiment, je les aime, mais ceux qui ne m'aiment pas, voilà, c'est difficile, hein. Et vouloir la gloire de Dieu, ça atteint ces endroits-là. Ça nous permet aussi de ne pas être idéaliste. En tout cas, il faut tous l'être un peu idéaliste. Mais en tout cas, ça nous permet aussi de ne pas idéaliser les choses au point d'en être déçu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que rechercher la gloire de Dieu, c'est aussi se rendre compte qu'on est imparfait. Et que l'imperfection, elle réside aussi chez ceux qui nous entourent. Et on sera toujours déçu des autres. Toujours. Jamais de Dieu, mais toujours déçu. Mais cette déception ne doit pas nous renfermer dans notre coquille, surtout si on met en avant la gloire de Dieu. On va sortir de cette coquille. On va laisser grand ouvert, parce que c'est pas le bien-être qu'on recherche. C'est pas des bonnes relations, tout ça c'est génial. Mais d'abord, on recherche la gloire de Dieu. L'apôtre Paul disait, dans Romains au chapitre 15, il disait « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi » pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a faite par moi. Il est en quelque sorte en train de dire, moi, je veux bien annoncer l'évangile, mais je veux annoncer ce que le Seigneur a fait pour moi. Je ne vais pas parler de choses que finalement il n'a pas encore fait dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On te demande d'abord, moi, il y a des sujets sur lesquels j'ai du mal, hein, parce que je sais que je ne suis pas en mesure de les aborder. Encore, pour l'instant. Et annoncer les choses que Dieu n'a pas encore fait dans nos vies, ça c'est terrible, quoi. Alors ça me permet de vous annoncer quelque chose. C'est pas moi qui vais vous l'annoncer, mais c'est Samuel, il va vous dire quelque chose pour terminer, puis après je prierai. Il va vous dire quelque chose et puis on terminera là-dessus. Samuel ?
Bonjour. Enfin, je voulais vous annoncer que je vais me faire baptiser et que j'ai attendu par mes propres forces de plaire à Dieu, enfin de m'améliorer, mais j'ai compris qu'en fait c'est impossible, que seulement Jésus peut nous aider à s'améliorer, que j'ai compris ce que c'est le péché, j'ai compris ce que c'est de se repentir, j'ai compris qu'il est mort pour moi, que voilà, un peu, et que voilà, je veux lui donner ma vie et puis je veux le suivre et voilà, ça vient du fond du cœur. Et avant de partir, je voulais le faire dans l'église et voilà, merci beaucoup.
Voilà, je pense que tout est dit. Il y a d'autres personnes, je sais, ici, qui voudraient aussi se faire baptiser. On a Mary aussi. Il faut qu'on se voit avant que tu repartes au Brésil.